Je me présente devant vous ce soir en homme blanchi. Blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi.
35 degrés dès demain au sud de la Loire, jusqu'à 40 localement dans la semaine.
Le ciel et la nature ont eu raison de la fin de cette 19e étape du Tour de France, mais c'est la bonne décision qui a été prise.
Ils sont tous les trois agriculteurs, mais ne sont pas égaux face à la sécheresse.
Après 5 jours de manifestations continues, Hong Kong est quasiment au point mort ce matin. Les magasins sont fermés, le métro ne fonctionne pas.
Combien pensez-vous que coûte la vie d'une femme ? Je veux votre réponse.
Il est près de 11h du matin à El Paso. C'est la panique. Les forces de l'ordre font évacuer les centaines de clients.
Un drone américain est abattu par l'Iran le 20 juin. Le lendemain, la télévision iranienne montre les débris de l'engin. Selon Téhéran, ce drone aurait franchi l'espace aérien de la République islamique.
Non, ce n'est pas un coup de poker. C'est, je crois, le rôle que la France doit jouer. Donc on a essayé et on a réussi à franchir une étape importante dans ce G7 sur le sujet de la crise iranienne.
Amazonie qui flambe et les relations franco-brésiliennes qui s'embrassent.
Et puis signalons enfin que de la maternelle au lycée, il y aura désormais dans toutes les salles de classe un drapeau français et un drapeau européen, ainsi qu'une affiche avec les paroles de la Marseillaise et la devise de la République, liberté, égalité, fraternité.
Voilà donc un petit florilège des sujets que vous avez pu entendre sur nos antennes cet été ou pas. Et d'ailleurs, pour cette première fabrique médiatique de la saison, nous proposerons donc comme une séance de rattrapage à l'attention de celles et ceux qui auraient manqué quelques épisodes pour cause de vacances, au singulier comme au pluriel, ou qui sait, pour cause de voyages lointains. Alors que s'est-il passé de marquant durant ces 2 mois estivaux que les médias n'ont pas manqué de souligner? Et d'ailleurs, comment travaille-t-on dans un quotidien à l'heure d'été quand on doit continuer d'informer et de nourrir les pages du journal, mais que le pays avance au ralenti? Fait-on plus d'international? Va-t-on fouiller des sujets différents? Ou examine-t-on un fait, même anecdotique, sous tous les angles et sous toutes les coutures pour remplir les pages? Nous allons poser ces questions à nos deux invités ce matin, deux directeurs de rédaction de Quotidien. Luc Bronner, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en studio. Vous dirigez la rédaction du Monde. Et au téléphone, depuis la Drôme, avec nous se trouve Alexandra Schwarzbrod. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction de Libération, mais on a pu vous entendre quasiment tout l'été, entre fin juillet et août, dans les matins de France Culture. Vous nous avez raconté vos cahiers d'été de Libération. Vous, Luc Bronner, vous avez été là tout l'été au sein du Monde ?
Non, comme tous les journalistes, je prends des vacances, bienvenue. Donc j'étais là plutôt au mois de juillet.
Alors c'est quoi l'été pour un journaliste? Est-ce qu'on pourrait parler d'un journalisme estival ou ça n'a aucun sens? Ça ressemble à quoi l'été dans un journal quotidien, Luc Bronner?
Journalisme estival, non, en aucun cas. En tout cas chez nous, c'est pas du tout le raisonnement. On doit s'adapter à la réalité de la vie sociale qui fait que les journalistes prennent des vacances et c'est tant mieux, comme tout salarié en France aujourd'hui. On doit s'adapter parce que d'autre part, le rythme de l'actualité nationale évolue fortement. L'actualité politique se réduit, l'actualité économique se réduit encore plus. Et donc, c'est un moment où, moi je trouve de façon très positive, on est amené à aller chercher des sujets qui sont des sujets de long terme, des sujets d'approfondissement. Et au Monde, depuis plusieurs années, on travaille beaucoup sur des feuilletons, sur des grandes séries, en pensant que par ailleurs, et c'est un autre facteur qui est important, nos lecteurs ont le temps de consacrer des heures chaque semaine à la lecture de leur quotidien. Donc, pour moi, c'est pas du journalisme estival, on n'est pas dans une légèreté, on est plutôt dans une recherche de profondeur, au contraire.
Et qu'est-ce qu'il en est au sein de Libération, Alexandra Schwarzbrod?
C'est à peu près la même chose, mais c'est vrai que ce qui est très intéressant et totalement contradictoire et un vrai casse-tête qu'on n'a toujours pas résolu et qu'on ne résoudra sans doute jamais, c'est que l'été, en effet, les journalistes ont envie aussi de prendre des vacances et puis sont souvent, notamment les journalistes politiques, surtout quand il y a des échéances électorales, comme cette année les européennes, ils sont rincés, donc ils ont envie de partir. Donc les bureaux sont de plus en plus désertés au fil des jours de l'été. Et paradoxalement, les lecteurs, eux, ont le temps de lire. Donc on est dans cette difficulté à créer, produire tous les jours un quotidien qui puisse intéresser les lecteurs. Ils ont envie de lire, donc il faut leur en donner à lire, si je peux dire un peu vulgairement, mais c'est pas du tout péjoratif. Donc ils veulent à la fois du fond, ils veulent aussi se distraire. Donc il faut arriver à produire un quotidien qui ne soit pas trop froid, parce que s'ils achètent un quotidien, Le Monde ou Libération, c'est aussi qu'ils veulent de l'actualité. Évidemment, ce qu'on pourrait faire, c'est préparer uniquement des événements, comme nous on appelle les trois premières pages du journal, un peu froid, un peu magazine, un peu déconnecté de l'actu, les emmagasiner pour les publier au fil des jours. Mais en même temps, je pense que le lecteur se lasserait, il a aussi envie d'actu. Donc c'est un équilibre très compliqué à trouver entre le chaud, le froid, le fond, la légèreté. Et tous les ans, c'est une sorte de, non pas un combat, parce que c'est un combat très agréable, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, j'adore bosser au mois d'août. Mais c'est vrai que tous les jours, c'est un casse-tête.
Est-ce qu'il y a des marronniers l'été pour les quotidiens? Je sais pas, le tourisme?
Non, je crois pas. Il y a, en tout cas, dans la couverture que peut faire un journal comme Le Monde, c'est pas le cas, puisque, comme le dit Alexandra, il y a de l'actualité.
On a des séquences
d'actualité extrêmement importantes, alors qui ne provoquent pas la même perception dans une opinion comme l'opinion française, mais ce qui se passe à Hong Kong pendant l'été est fondamental. On est dans un affrontement sur l'espérance d'un régime démocratique ou semi-démocratique face à un régime qui est un régime dictatorial, en tout cas qui emprunte beaucoup d'éléments à un régime dictatorial. Et donc c'est une actualité fondamentale. Et en tant que telle, pour moi, il n'y a pas de différence de traitement. Et quand on couvre Hong Kong, comme on l'a fait dans les journaux français, dans les journaux internationaux, on n'est pas du tout dans un marronnier. On est dans la réactivité, la recherche de profondeur, le reportage, la mise en perspective d'un phénomène, d'un événement qui est majeur à l'échelle planétaire aujourd'hui.
Finalement, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas plus de temps à l'année pour pouvoir continuer ce fil d'approfondissement, de reportage au long cours.
Vous avez raison. Une de mes réflexions, c'est de cesser d'appeler ces séries séries d'été. Je pense que le feuilleton est un vieux genre journalistique qui remonte au début de la presse grand public, notamment au début du XXe siècle. Je pense que c'est un format qui est très moderne en réalité, puisque c'est un format qui nous permet d'avoir de la longueur, de la profondeur. Quand, par exemple, Florence Aubenas part en reportage plusieurs semaines dans un hypermarché en France pour raconter le quotidien très simple et très profond d'un hypermarché, de ce que ça dit d'une société, ce sont des dizaines de milliers de signes qui permettent de donner une patte humaine, qui permettent d'avoir une vraie complexité, une lecture qui est, je pense, beaucoup plus intéressante que l'actualité instantanée et que ce que propose le bruit médiatique au quotidien. Donc, moi, je le vois comme une inflexion, comme une évolution du traitement journalistique, notamment pour des quotidiens qui doivent justifier leur existence face au numérique. Une des raisons d'être des journaux aujourd'hui, c'est de proposer ce genre de mode de traitement.
Bon, mais ça suppose sans doute un... Pardon, Alexandra Schwarzbrot.
Bon, à la fois, je suis d'accord avec Luc Brunner, et en même temps, on publie aussi, par exemple, en plein milieu du mois d'août, on a fait une une sur le drame qui est en train de se passer en Afghanistan. On avait un envoyé spécial qui nous a fait des magnifiques reportages sur la vie quotidienne à Kaboul. On a fait cette une-là.
Au moment d'une explosion lors d'un mariage.
Juste avant, justement. Il y était, et on a fait une là-dessus, en se disant, bon, voilà, peut-être que les gens qui sont en vacances n'ont peut-être pas envie de lire un truc aussi terrible. Mais en même temps, c'est important. Il faut le raconter. Et en plus, le reportage était magnifique. Mais voilà, on le fait aussi le reste de l'année. Simplement, c'est vrai que l'été, c'est vraiment différent. On avait même imaginé un moment à Libé, on s'était dit, bon, finalement, le cahier d'été, ça marche plutôt bien. Apparemment, ça a l'air d'intéresser les lecteurs. Et si on faisait un cahier d'hiver? On y avait réfléchi quelques jours et puis très vite, c'est pas possible parce que mine de rien, c'est un gros investissement humain parce que tous ces articles froids, tous ces longs reportages dont parle Luc Brunner et j'imagine qu'il va être d'accord avec moi, c'est un boulot dément.
Oui, c'est ça, c'est le temps de préparation quand même.
C'est des articles qu'il faut écrire, des articles de fond et moi je vois bien puisque je me suis occupée du cahier d'été de cet été, enfin comme de celui de l'an dernier, ça veut dire qu'à partir de février-mars, il faut commencer à trouver des idées et surtout, il faut aller tanner les journalistes qui sont en train de bosser sur l'actu pour qu'ils écrivent ces papiers de fond et parfois ça va avec un reportage, une enquête. Donc il faut qu'ils préparent ces papiers froids, entre guillemets, tout en travaillant sur l'actu. Et parfois, certains nous disent on peut pas, on n'y arrive pas. Et il faut aller les supplier à genoux dans les premiers jours de juillet. Il faut vraiment y aller, mais c'est vraiment du corps à corps. Mais il faut aller leur arracher les articles pour qu'ils arrivent à les terminer avant de partir en vacances, parce que ils sont submergés par l'actu parallèlement. Donc c'est pas si évident. Finalement, on a renoncé très vite à ce cahier d'hiver, parce qu'on s'est dit que ce serait trop compliqué.
Luc Brunner.
Alors là-dessus, c'est vrai que je parle avec une position qui est, par chance, très favorable. C'est-à-dire le fait au Monde d'avoir 450 journalistes en CDI, ça nous donne la possibilité de détacher des journalistes sur des projets de long terme. Et c'est vrai que là, on travaille en ce moment sur des séries qui sortiront en octobre pour certaines, d'autres probablement en décembre, en début d'année prochaine. Donc, ce que décrit Alexandra à juste titre, je pense que c'est une évolution vers laquelle on doit aller. C'est-à-dire de proposer ces formats-là, pas simplement l'été, parce qu'on en a besoin pour remplir le journal en période d'actualité est plus faible et parce que les journalistes prennent des vacances. Je pense que c'est un format sur lequel on doit travailler toute l'année. C'est vrai qu'au Monde, on a ce privilège inouï d'avoir une rédaction qui a beaucoup augmenté ces dernières années et donc de pouvoir consacrer des ressources importantes sur ce genre de projet pour satisfaire cette curiosité assez extraordinaire de la part des lecteurs aujourd'hui.
Que s'est-il passé cet été dans les journaux et comment les journaux en ont-ils rendu compte? C'est la question que nous posons ce matin dans la Fabrique médiatique en compagnie de deux invités. Luc Brunner, qui est directeur de la rédaction du Monde, et Alexandra Schwarzbrot, qui est directrice adjointe de la rédaction de Libération. On va rentrer un peu dans le fond des sujets, si vous le voulez bien, maintenant. Et je vais faire d'abord appel à votre mémoire de journaliste. Est-ce que, d'une façon rétrospective, vous diriez l'un et l'autre, alors peut-être plus pour le mois de juillet pour Luc Brunner, et plus pour le mois d'août pour Alexandra Schwarzbrot, mais est-ce que ça a été un été intéressant, riche ou bien ennuyeux? Est-ce qu'il est arrivé qu'il ne se passe rien, qu'il y ait une absence totale d'information, par exemple? Luc Brunner.
Moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que cet été nous permet de raconter des crises longues. Je pense que c'est un été qui est décisif sur la question climatique, dans la prise de conscience des opinions mondiales progressives, mais irréversibles, je pense, de la gravité des phénomènes auxquels on est confronté. Je pense que cet été marque une nouvelle étape dans la compréhension des médias, des opinions, peut-être plus tardivement, pour l'instant, des leaders politiques sur ce sujet. Je pense que sur l'Asie et Hong Kong en particulier, c'est un moment qui est décisif là aussi et qui est passionnant à suivre. On est dans l'affrontement entre des oppositions, une opposition au régime actuel et à la Chine et à une puissance chinoise qui visiblement est prête à aller très loin, y compris en utilisant un vocabulaire sur le terrorisme, sur l'opposition au régime actuel à Hong Kong. Et donc c'est terrible, mais c'est passionnant journalistiquement à suivre. Et le dernier point, si j'avais à hiérarchiser, je pense que sur le Brexit, en fin de cet été, on est avec on va appeler ça le coup de force de Boris Johnson, dans un moment démocratique clé, avec la volonté d'un dirigeant européen majeur de passer en force, en tout cas d'utiliser la force de son pouvoir contre le régime parlementaire afin d'obtenir ce qu'il souhaite sur le Brexit. Donc, quand je regarde ces trois événements-là, ces trois crises longues, c'est vraiment passionnant d'un point de vue journalistique.
Le Brexit, c'est d'ailleurs un très bon exemple de crise au long cours, avec la difficulté sans doute pour les journalistes du quotidien, que vous êtes d'ailleurs l'un et l'autre, de ne pas se répéter, la crainte peut-être de tourner en rond, d'avoir encore à dire les mêmes choses sur le Brexit qui dure depuis quand même un certain nombre de mois maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une façon très française dans la presse de considérer le Brexit uniquement comme une absurdité britannique, Luc Brunner?
Non, parce que le Brexit raconte aussi bien le Royaume-Uni que le reste de l'Europe. Derrière le Brexit, il y a un questionnement sur ce que doit être l'Europe et la façon dont elle peut aujourd'hui se défendre face à des forces centrifuges. Donc, je crois pas. Je pense que le Brexit raconte la question du populisme, du lien et du rapport compliqué entre des élites européennes au sens large et anglaises en particulier et les citoyens. Ça raconte aussi la question de la qualité de l'information. Quand on revient sur les origines du Brexit et sur le nombre d'informations pourries qui ont pu circuler dans la campagne électorale au Royaume-Uni à ce moment-là, c'est absolument passionnant. Ça raconte aussi l'immense difficulté qu'a l'Union européenne aujourd'hui à raconter en quoi elle peut être positive dans la vie concrète des citoyens. Et ce sont que trois exemples qui disent pour moi comment le Brexit en fait est un révélateur de la crise du Royaume-Uni, mais bien au-delà de la crise de l'Union européenne.
Alexandra Schwarzbrot.
C'est absolument passionnant. Hein. Alors juste une petite incise, notre correspondante à Londres, Sonia de la Salstolper, qui est absolument formidable, est partie quasiment au bord du burn-out en vacances. Il a fallu qu'on la débranche et qu'on lui mette un masque à oxygène, parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce que tous les jours, comme vous le soulignez très bien, comment écrire des articles passionnants qui ne lassent pas, parce que finalement, tous les jours, il faut refaire, re-raconter le contexte pour un lecteur qui n'aurait pas lu le journal de la veille, par exemple. Et donc, c'est un boulot terrible. Alors j'ai vu qu'en effet Le Monde avait fait beaucoup de une internationale. Nous on en a fait, je trouvais qu'il y avait eu beaucoup d'informations françaises très intéressantes et notamment il y a eu cette tragédie de la mort de Steve dont on a beaucoup parlé.
Alors pour ceux qui n'étaient pas là, Alexandra Schwarzbrot, en un mot, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ce jeune garçon qui est mort à Nantes, dont on a retrouvé le corps un mois après sa disparition noyé.
Et ça c'était au tout début de l'été.
Absolument, qui était pendant la fête de la musique, il était là sur le quai de Nantes quand les forces de police ont chargé en pleine nuit et dans la panique, ce jeune garçon le lendemain avait disparu et on l'a retrouvé noyé un mois plus tard. Donc que s'est-il passé exactement? Est-ce qu'il y a eu faute de la police? Voilà, il y avait
plein de choses intéressantes à raconter autour de ça, d'autant que on sortait de plusieurs mois de crise des Gilets jaunes, où la police avait été en première ligne et accusée d'un déploiement excessif de la force. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter. À la limite, c'était presque le point culminant d'une crise de la police avec les Français.
Vous disiez, Alexandra Schwarzbrot, tout à l'heure qu'il y avait quand même, donc, comme tous les étés, une alternance entre le temps long et l'appel, la nécessité d'un temps long aussi pour les lecteurs, et ce temps d'actualité au quotidien qu'on vit notamment, et de façon peut-être plus accrue dans un quotidien. Il y a eu quand même quelques actualités très fortes au quotidien, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce qui s'est passé en Afghanistan, et puis quelques figures, de grandes figures qui sont mortes, comme celle de Toni Morrison, qui là, oblige, même si pour certains vous y êtes préparé en tant que journaliste, mais qui oblige à changer peut-être complètement le journal tel qu'il était prévu, Luc Bonner.
Oui, alors sur les grands morts, je ne vais pas révéler un grand secret, mais tous les journaux préparent les nécrologies à l'avance, avec l'idée que des personnalités qui sont âgées, il faut qu'on puisse être prêt à n'importe quel moment à publier 2 pages, 3 pages, 4 pages, voire plus parfois sur des personnalités. Donc on est tous prêts, ou quasiment prêts, à publier des belles histoires et raconter ces itinéraires de vie qui raconte des individus, qui raconte des périodes, des sociétés, des transformations. Et donc oui, dans ces cas-là, quand Toni Morrison décède, on change rapidement ce qu'on appelle le chemin de fer du journal, c'est-à-dire le déroulé pour que nos lecteurs puissent le lire très très rapidement.
Dernière question pour vous, Alexandra Schwarzbrot, puisque nous sommes dans cette période entre la fin de l'été et donc la rentrée. Cette semaine et depuis 2 semaines, les quelques journaux ont été émaillés de la couverture d'une affaire, qui est l'affaire Yann Moix, puisque Yann Moix a publié un roman dans lequel il raconte de nouveau son enfance maltraitée, mais que son père et son frère accusent d'omettre ses propres responsabilités avec des horreurs commises notamment sur son jeune frère, puis des dessins antisémites faits dans sa jeunesse, et Libération en a fait sa une, 4 pages consacrées à cette affaire, mercredi. Est-ce que ça, vous l'auriez fait dans un temps d'année, ou est-ce que c'est parce que c'est encore l'été que vous y avez consacré autant d'importance?
Ah non, alors là, je remets ça tout de suite dans son contexte, parce que le jour, donc comme on a fait Yann Moix mercredi, il faut voir que samedi, on avait fait une une sur l'Amazonie et Bolsonaro l'incendiaire, l'avant-veille, le G7 et la rentrée d'Emmanuel Macron à cette occasion, et encore la veille de Yann Moix, on avait fait un numéro spécial sur le Libé des forêts, et donc qui posait tout le problème, ce que soulignait Luc Bronner, climatique, dont on a beaucoup parlé tout l'été. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est de proposer de la variété aux lecteurs. Donc là, on avait fait beaucoup de politique, beaucoup de climatique. Il se trouve qu'on est en pleine rentrée littéraire. Hein. J'imagine que le monde des livres le couvre abondamment dans les semaines qui viennent. C'est un moment qui est attendu par beaucoup, et notamment tous les professionnels du livre, les éditeurs, les critiques, les auteurs. Et donc, on avait prévu ce jour-là un événement sur la rentrée littéraire, et dans cette rentrée littéraire, l'affaire Yann Moix, mais qui était plus, si vous voulez, une fin d'événement, qui était plus un éclairage de cette rentrée littéraire qui fait la part belle aux relations père-fils, grand-père-fils. Et donc, on voulait mettre ça en perspective. Le problème, c'est que dans la journée est tombé, enfin, l'Express a révélé la participation de Yann Moix à une publication qui était clairement antisémite. Et donc là, c'est pour ça que on a totalement changé, il a fallu intégrer ça et en effet, mettre ça en valeur tout en parlant de la rentrée littéraire. Donc on a juste changé l'ordre des articles, mais ça devenait un vrai sujet. C'était un vrai sujet.
Luc Bronner, c'était une information.
Oui, il fallait la couvrir, et notamment dans la deuxième partie de l'information, c'est-à-dire la polémique familiale. Moi, je la trouve pas très intéressante. Elle existe, et bon, voilà, ça fait partie de l'animation éditoriale d'une rentrée de la part des éditeurs. La deuxième partie de la polémique sur l'antisémitisme et le négationnisme, oui, ça méritait d'être traité à sa juste valeur. Nous, on a plutôt estimé que ça valait pas la une, parce que c'est un individu avec une histoire bon qui mérite d'être couverte, mais qui valait pas la une. Mais oui, ça mérite d'être couvert, évidemment.
Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde, et Alexandra Schwarzbrot, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Merci beaucoup et bonne rentrée donc à tous les deux. Bonne fin de vacances à vous, Alexandra.
Merci.